Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et on n'arrête pas les questions dans les enjeux internationaux. Pourquoi le pourquoi le modèle de gouvernement chinois inspire-t-il les pays d'Asie du Sud-Est, Thierry Garcin?
Voilà, avec notre invitée Sophie Boisseau-Durocher, chercheur associé. Je n'ai pas dit chercheuse, vous ne le voulez pas, parce que sinon on a tout de suite des courriels. Chercheur associé au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc dans la relation entre le monde politique et le monde économique, on connaît les principales contradictions, d'ailleurs assez dynamiques. En Chine, en particulier le divorce entre le système politique autoritaire, sinon plus, et les répressifs, on peut dire, et le capitalisme le plus échevelé. Alors en Asie du Sud-Est, on pourrait d'ailleurs facilement élargir le phénomène au Taïwan de l'après-guerre et à la Corée du Sud. Les régimes autoritaires, militaires, dictatoriaux ont accompagné, peut-être permis le développement économique, les fameux quatre dragons. Alors remarquez que dans les quatre dragons, on le souligne assez peu, il y en a trois qui sont de peuplement chinois. Par définition Taïwan, par définition Hong Kong, et puis évidemment Singapour, en très grande partie. Alors ça soulève évidemment cette question du modèle chinois, s'il existe, et son influence.
Alors c'est un modèle qui effectivement, la Chine aujourd'hui se pose comme modèle, et Xi Jinping vend ce modèle à la fois sur le plan économique et sur le plan politique, et ça c'est la nouveauté avec Xi Jinping. Le nouveau modèle de croissance a été présenté, je dirais, dès son arrivée au pouvoir, avec le 18e congrès en novembre 2012, un nouveau modèle économique basé sur l'innovation, basé sur la recherche, donc un modèle qui prétend concurrencer directement le libéralisme économique qu'on voit dans les pays occidentaux. Et puis, c'est nouveau, un modèle politique également. Et donc ça, c'est la question qui nous a intéressés avec Emmanuel Dubois de Prisque, c'était de savoir comment ce modèle politique qui est basé sur une gouvernance démocratique, autocratique, pardon, qui est basé sur un contrôle démocratique, médias, sur un contrôle de l'opposition sur une nostalgie nationaliste, comment ce modèle politique influençait les pays d'Asie du Sud-Est et les pays non sinisés précisément d'Asie du Sud-Est. Et je parle évidemment de la Thaïlande, des Philippines ou de la Malaisie.
On en avait parlé d'ailleurs ensemble, Thaïlande, Philippines, etc. C'est des dérives qui ne sont même plus autocratiques pour les Philippines, mais ce sont des dérives comment pourrait-on dire, quasi
dictatorial,
Façon. Oui, et avec des affrontements intestins tout à fait détestables, une sorte de climat de pré-guerre civile presque favorisé par la déclaration du président. Mais alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est que sans arrêt, les Asiatiques de différents peuplements encore renvoient à leur propre histoire, à leur propre culture qui est différente.
Oui, alors il y a, si vous voulez, une déclinaison nationale de cette modernité autoritaire vendue par la Chine, clairement, et ces déclinaisons nationales n'empêchent pas néanmoins, et c'est là-dessus que nous avons voulu travailler, n'empêchent pas néanmoins des convergences qui nous interrogent très profondément. Des convergences, par exemple, en matière de verrouillage du système politique, qu'on observe en Thaïlande, qu'on observe en Malaisie, du contrôle de l'opposition. Pourquoi des personnalités politiques ne peuvent plus s'exprimer? On l'a vu aux Philippines, Leila de Lima, qui était la seule à véritablement contester les méthodes abusive du président Duterte dans la lutte contre la drogue a été arrêtée. Yingluck Shinawatra en Thaïlande n'a plus droit de parole. D'autres, opposants comme Nopon Supipat non plus. En Malaisie, Anwar Ibrahim ne peut plus s'exprimer. Il est retourné en prison. Donc comment il y a ce verrouillage avec une gouvernance démocratique, autocratique, justifiée précisément au nom du peuple. Ce qui est intéressant, c'est que ces petits groupes au pouvoir pensent et expriment les besoins du peuple et ils revendiquent précisément ces méthodes autoritaires pour justifier les besoins, l'intérêt du peuple. Voilà, donc ça c'est un point intéressant. Et puis il y a également donc le contrôle des médias. Les télévisions sont complètement surveillées aujourd'hui, certaines ont disparu, les journaux également. également, il y a une autocensure qui s'installe. Donc il y a là des dérives qui nous interrogent très profondément.
On l'a vu dans les informations d'ailleurs ce matin, Sophie Boisseau-Durocher, encore une fois, par exemple, ne relâche les autorités de Pékin, ne relâche comment pourrait-on dire, les dissidents politiques que dans des conditions extrêmement rares et
dramatiques.
Et dramatiques, oui, ils relâchent souvent des personnes qui n'en peuvent plus au sens physique du terme.
Au point d'ailleurs qu'il y a une certaine inquiétude aujourd'hui parmi ceux qui ont dû quitter la Thaïlande, par exemple, d'être poursuivis jusque à l'étranger.
Alors, ce renvoi, Sophie Boisseau-Durocher, je rappelle que vous êtes chercheur associé donc au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Au fond, cette dérive, etc., n'est pas tellement nouvelle. Moi, je me rappelle Mahathir, c'était en Malaisie, qui disait, après tout, les droits de l'homme individuels à l'occidental, on n'en veut pas. Pour nous, c'est les droits de l'homme collectifs. Et puis c'est la famille qui prime sur l'individu, etc. On rappelle toutes les tirades de Lee Kuan Yew à Singapour, le dirigeant évidemment de Singapour, et ainsi de suite. Au fond, c'est une tendance très lourde depuis des décennies.
Absolument, c'est une tendance très lourde. Il y a d'ailleurs une culture politique, je dirais, assez proche, hein, entre la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est. Mais il y avait néanmoins, je dirais, l'arrimage des flux économiques à la mondialisation, et donc qui permettait quand même des appels d'air réguliers et qui contraignaient les dirigeants.
Ça soulève une question de fond, d'ailleurs, c'est sempiternel, c'est est-ce que vraiment le développement économique favorise les transitions démocratiques, comme
Mais
vous dites.
Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que précisément la croissance de l'Asie du Sud-Est est de plus en plus arrimée à la croissance chinoise. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Asie du Sud-Est. Les flux financiers sont de plus en plus denses et on peut penser qu'avec la mise en place de la BRI, c'est-à-dire la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie, cette proximité va se densifier dans les années à venir, et donc d'où la nécessité pour Pékin d'établir une sphère d'influence économique et politique durable.
Et pas seulement avec l'Asie du Sud-Est, d'ailleurs, effectivement, pour les routes de la soie, au moins celles qui sont terrestres, avec, on va dire, l'intérieur de l'Asie centrale.
Absolument. Et il est important, il est essentiel aujourd'hui pour Pékin de contrôler les évolutions en cours, hein, sur le plan intérieur, pour protéger ses intérêts, avec des conséquences immédiates à l'égard des États-Unis et puis modèle démocratique occidental qui n'a pas réussi à véritablement s'implanter dans cette s'incruster dans cette région.
Avec, et vous le dites, je crois que vous employez ce terme dans une étude que vous avez fait paraître avec Emmanuel Dubois de Prisque à l'Institut Thomas More, juin 2017, on la retrouvera facilement sur notre site internet, avec aussi ce que vous appelez les errements des expériences démocratiques aussi.
Absolument, c'est aussi le résultat. Alors après ces valeurs asiatiques que vous avez évoquées qui se sont développées dans les années 80 avec Mahathir, Lee Kuan Yew, etc., il y a eu la crise de 97, la crise économique qui a effectivement...
Qui a démarré d'ailleurs, qui a démarré en Thaïlande.
Qui a démarré précisément en Thaïlande et qui a, accélérer la disjonction avec le modèle libéral occidental et avec des crises très profondes dont ces pays se remettent à peine et dont ils se sont remis grâce à la Chine. Ce qui a permis précisément à Pékin de présenter un visage beaucoup plus présentable à ces régimes.
Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher, franceculture.fr comme d'habitude pour vous réécouter et vous télécharger.
Merci Thierry Garcin et merci à vous aussi Sophie Boisseau-Durocher d'avoir été avec nous en studio. Et demain, Thierry, il sera question de l'Iran.
Il va être question des États-Unis. Alors, ça va être un petit bilan très provisoire de 5 ans de pouvoir du président Trump. Et notre invité... Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui,
ouais. On se trompe tous alors, voilà. C'est l'avant-dernière.
Parce que...
bon, oui, c'est n'importe quoi, cette fin d'année.
Ne soyons pas si pressés, en l'occurrence, avec le président Trump. 5 mois de pouvoir avec notre invité, Vincent Michelot, donc IEP de Lyon.
Très bien.
Et merci Sophie de m'avoir corrigé.
Il est 6h55 sur France Culture.